Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, le journal dans quelques secondes, 19h15, la carte blanche de l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, et puis 19h20, grand débat ce soir sur le nouveau rôle des pères qui a considérablement évolué depuis quelques années, avec aujourd'hui ce congé paternité, on en parlera, qui passe donc à 28 jours. D'abord le journal avec Isabelle Millet. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
L'obésité progresse en France, en particulier chez les jeunes. Elle a doublé en 8 ans chez les 18-24 ans. Le Covid et ses confinements n'ont pas arrangé les choses.
Le sexisme en entreprise, cette fois c'est le monde de l'édition qui est pointé du doigt. 61% des professionnels affirment avoir été victimes de comportements déplacés.
Un accord sur une fiscalité minimum pour les entreprises, un nouveau système de taxation des multinationales. 130 pays se sont mis d'accord tout à l'heure, on vous expliquera de quoi il s'agit.
Le procès 3DEC avec l'audition aujourd'hui de la mère de l'accusé, la diffusion d'un enregistrement troublant.
La Chine célèbre aujourd'hui les 100 ans du Parti communiste. En grande pompe, forcément, on sera à Pékin.
Le Tour de France, l'organisateur retire sa plainte contre la femme à la pancarte. Et puis la météo avec Anissa Haddadi. Après les brouillards, la journée s'annonce agréable.
Oui, beaucoup de brouillard demain matin sur le nord et l'ouest du pays. Mais dans l'après-midi, malgré un voile nuageux très présent sur la France, la journée est agréable avec de belles éclaircies et des températures en hausse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une enquête très préoccupante qui concerne la santé des Français. L'obésité est en forte augmentation dans notre pays.
Oui, l'Organisation mondiale de la santé n'hésite pas à la qualifier d'épidémie tant sa progression à l'échelle mondiale est fulgurante. Chez nous en France, le nombre de cas a doublé en 8 ans chez les 18-24 ans.
Il est passé de 5,4% de jeunes souffrant d'obésité ou de surpoids à 9,2%. Plusieurs facteurs sont pointés du doigt, Virginie Riva.
Oui, au-delà des prédispositions génétiques, à 18 ans, les causes sont relativement connues. Départ du domicile parental, consommation de produits transformés, stress des études, l'obésité et le surpoids peuvent pourtant entraîner par la suite diabète et hypertension, sans parler des conséquences psychologiques et sociales. Et les confinements n'ont fait qu'aggraver les choses chez les jeunes, comme l'explique Mélanie Delauzet, diététicienne et secrétaire générale de la Ligue contre l'obésité.
La plupart se sont retrouvés tout seuls dans des petits appartements, sans pouvoir aller pratiquer d'activité physique. Et puis les difficultés financières. Pour les personnes qui souffrent d'obésité, il y a eu une rupture de soins, donc les consultations diététiques, psychologiques, l'activité physique adaptée et la prise en charge médicale a complètement été arrêtée pendant la crise sanitaire.
Deuxième phénomène qui pourrait également paraître très inquiétant, un tiers des enfants de 2 à 7 ans est en surcharge pondérale. Mais là, le message de l'association est clair, il ne faut pas du tout dramatiser. Les courbes ont tendance à réduire naturellement ensuite à partir de 8 ans avec la croissance. Il ne faut surtout pas faire de régime, mais au contraire, laisser les enfants tranquilles.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1.
On en vient maintenant à ces agissements sexistes ou sexuels qui restent aujourd'hui encore une réalité dans le monde du travail. Malgré les campagnes de sensibilisation et malgré les hashtags, on découvre aujourd'hui que le secteur de l'édition est particulièrement concerné.
Oui, c'est ce que révèle une consultation menée par Ipsos et Livre Hebdo. Océane Théard, dans ce milieu de l'édition, 6 personnes sur 10 disent en avoir été victimes.
Oui, et preuve de l'ampleur du phénomène, Livre Hebdo a presque été débordé par le nombre de réponses, plus de 1000 en moins de 48 heures. Le plus souvent avec des descriptions très détaillées, des mains sur l'épaule, des mains aux fesses, des blagues sexistes. Une vague de témoignages recueillis par Anne-Laure Walter, rédactrice en chef du magazine.
On ne s'attendait pas du tout à cette vague de réponses, ce qui montre quand même à quel point la parole avait besoin d'être prise. Et là, on a des témoignages qui ne sont pas uniquement des cahiers de doléances, mais c'est des gens qui ont envie de faire changer les choses et qui proposent des solutions.
Ces solutions, ce serait par exemple de mettre en place une charte à l'intérieur des maisons d'édition ou de féminiser les jurys des prix littéraires. Mais pour Caroline Laurent, éditrice, autrice et une des premières à avoir alerté sur ce sujet il y a plus d'un an, l'important, c'est avant tout l'écoute.
Écouter au moment où une jeune éditrice ou une jeune autrice viendrait raconter ce qu'elle a subi avec un patron de maison d'édition ou un journaliste littéraire et d'avoir des sanctions beaucoup plus claires et nettes est essentiel.
D'après elle, ce qui va aussi permettre de lutter contre ce phénomène, c'est tout simplement le temps. Peu à peu, les nouvelles générations de professionnels plus sensibilisés à cette question remplaceront ce qu'elle appelle les vieux mâles blancs de plus de 50 ans.
Merci Océane Théard.
La justice Suisse donne 9 mois à l'État pour prendre des mesures supplémentaires afin de respecter les engagements de la France contre le changement climatique.
Et respecter l'accord de Paris, une décision inédite susceptible d'alimenter le débat de la présidentielle.
La pression qui monte pour obliger tous les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19.
Une annonce pourrait même intervenir avant septembre, prévient le gouvernement, sous la menace d'une 4e vague due au variant Delta. Le Portugal rétablit aujourd'hui le couvre-feu dans 45 communes. La ville de Tunis est également de nouveau partiellement confinée après un record de décès.
Une perquisition au ministère de la Justice aujourd'hui.
Elle visait directement le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, accusé par des magistrats de soupçons de conflit d'intérêts.
Un accord historique conclu à présent à l'OCDE, c'était cet après-midi, sur un nouveau système de taxation des multinationales.
Alors c'est très important, Carole Ferry, expliquez-nous ce que prévoit cet accord, qualifié par le ministre français de l'économie, de plus important conclu depuis un siècle.
Eh bien, l'idée, c'est de taxer les multinationales les plus rentables du monde entier. Cela concerne une centaine d'entreprises au total, généralement les reines de l'évitement fiscal. Sont visées, bien sûr, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. Mais cet impôt ne concernera pas que les entreprises du numérique. Le géant français du luxe, LVMH, par exemple, est également ciblé. Alors, cet accord prévoit donc une taxe d'au moins 15%. Cela veut dire un taux qui pourrait augmenter à l'avenir. Et l'idée, c'est que si une entreprise dit payer 3% d'impôt à Singapour, par exemple, eh bien, nous pourrons réclamer les 12% manquants si cette entreprise a des activités en France. Avec cette mesure, l'OCDE espère récupérer au total 100 milliards d'euros auprès de ces multinationales, qu'il faudra bien sûr redistribuer entre tous les pays. La France espère ainsi obtenir 5 à 10 milliards chaque année. Un accord historique, en effet, et c'était loin d'être gagné. Cela fait plusieurs années que l'OCDE travaille sur ce projet. Il s'agit là donc d'un accord politique. Il faudra encore rédiger la loi qui l'encadre et cela va prendre du temps. Cette nouvelle taxe ne devrait pas voir le jour avant 2023.
Merci Carole Ferry du service Écho d'Europe 1. Londres salue un nouveau pas vers la réforme de la finance mondiale. L'Allemagne salue un pas colossal vers une plus grande justice sociale. Toujours au chapitre économique et social, Bercy annonce ce soir un accord de principe pour la reprise d'Ascoval et d'Ayange par l'allemand Sarstal.
William Bardon, condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration et la mort d'Élodie Kulik qu'en 2002.
Oui, c'est la même peine qu'en première instance. La défense de Willy Bardon va se pourvoir en cassation. Au procès de Troadec, deux temps forts aujourd'hui. D'abord, la diffusion d'un enregistrement qui met en scène les principaux protagonistes de cette sordide affaire, de ce quadruple meurtre familial. Vous avez suivi cette audience, Charles Guyard?
Oui, on a en effet entendu Pascal et Brigitte Troadec dans la salle d'audience. Leur voix sur un enregistrement daté du 5 juillet 2014. Ce jour-là, le couple est comme convoqué par Hubert Caouissin et Lydie Troadec. Ce sont eux d'ailleurs qui enregistrent. Lydie, j'estime avoir le droit à la moitié de ce que vous avez pris. Mais la moitié de quoi, la coupe Brigitte interloquée. Pascal, énervé. Mais enfin, de quelle source tu sais qu'il y a de l'or? Je le sais, j'ai des informations, reprend Hubert, énigmatique. Je n'aime pas qu'on nous traite de voleurs, conclut Brigitte, excédée. Fin de l'extrait. La partie civile se tourne alors vers Caouissin. Ça vous fait quoi d'entendre ces voix que vous avez éteintes? C'est étrange, bredouille l'accusé d'un ton détaché. Pour son avocat, Maître Filion, cette séquence prouve en tout cas que son client était vraiment plongé dans un délire absolu.
Cet extrait, il est juste la marque du délire d'Hubert Caouissin. En tout cas, on peut en tirer des conséquences sur la vérité de ce dossier et de l'état mental d'Hubert Caouissin à l'époque déjà et dans les années qui vont suivre.
Les années qui vont suivre, c'est notamment 2017, en février, et le paroxysme de cette histoire avec le quadruple meurtre d'Orvault. Cet après-midi, c'est Renée Troadec qui s'est exprimée. Elle est la mère de Lydie, co-accusée, et de Pascal. Pour son fils, tué par Caouissin, elle ne s'est pas constituée partie civile, et on a compris pourquoi. Pascal embêtait tout le monde, il disait du mal de nous, se souvient-elle, notamment aujourd'hui. En 51 minutes, elle n'a pas versé une seule larme.
Charles Guyard qui suit ce procès Troadec pour Europe 1.
En Chine, plus de 70 000 personnes étaient réunies aujourd'hui, place Tiananmen, pour assister aux célébrations du centenaire du Parti communiste chinois.
Le président Xi Jinping a prononcé un discours d'un peu plus d'une heure pour vanter les réussites du régime communiste et au passage s'en prendre aux démocraties occidentales. Le reportage sur place du correspondant d'Europe 1, Sébastien Le Belzic.
Des militaires, des étudiants et des dizaines de milliers de cadres du parti communiste, la place Tiananmen, noire de monde pour ce centenaire. Une foule au garde à vous, sans masque, pour écouter le discours fleuve du président chinois. Un discours volontairement nationaliste et qui s'en prenait sans jamais les citer directement aux États-Unis, les grands rivaux de la République populaire. Xi Jinping.
Il nous faut accélérer la modernisation de l'armée. Édifier un État puissant requiert une armée puissante, car elle seule peut assurer la sécurité de l'État, défendre la Chine socialiste et préserver la dignité de la nation.
Une trentaine d'avions de chasse transpercent les nuages au-dessus de Pékin et de larges banderoles appellent à l'unité du parti.
En habit révolutionnaire, sans jamais esquisser le moindre sourire, le président le plus puissant depuis Mao Tse-tung s'est adressé aux 95 millions de membres du Parti communiste, mais aussi au monde entier et surtout aux démocraties occidentales accusées de vouloir humilier la Chine. Nous ne nous laisserons pas faire, a répondu Xi Jinping dans une salve d'applaudissements. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et après ce détour par la Chine, voilà, on continue d'entendre la musique du Parti communiste chinois. On prend tout de suite des nouvelles du Tour de France.
Le Tour de France. L'événement est sur Europe 1.
La sixième étape du Tour aujourd'hui entre Tours et Châteauroux a été remportée par le Britannique Mark Cavendish, c'est vrai, qui devance le Belge Philipsen et le Français Nasser Boigny. Le Néerlandais Mathieu Van Der Poel conserve le maillot jaune.
Oui, par ailleurs, la direction du Tour de France a décidé de retirer sa plainte finalement contre la spectatrice qui avait brandi une pancarte samedi au bord de la route entraînant la chute de plusieurs cyclistes.
Mais comme l'explique le directeur du Tour, Christian Prudhomme, l'affaire, dit-il, est allée trop loin.
Il faut clairement faire retomber la pression. Cette histoire prend des proportions folles, insensées, ça n'a vraiment plus de sens. Donc cette dame a fait une bêtise, elle n'a pas fait attention. Nous, ce que nous voulons, c'est répéter qu'il faut faire attention pour que la fête du Tour de France reste la fête du Tour de France. Quand on vient en famille, on tient les enfants par la main. Quand on est en groupe, on est tous du même côté de la route. On ne sacrifie pas tout pour une photo. Voilà. Mais voilà, faisons retomber la pression, calmons-nous. La dame s'est présentée spontanément à la gendarmerie. Maintenant, il faut rester calme, tranquille, et ça ira mieux pour tout le monde.
Voilà, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, avec Axel May.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy, l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Un mot encore pour vous dire qu'au tournoi de Wimbledon, Gaël Monfils a été éliminé aujourd'hui au deuxième tour par l'Espagnol Martinez.
Merci ma chère Isabelle, c'était un plaisir de partager cette année d'informations dans Europe Soir à vos côtés. Vous êtes une grande pro,
plaisir
ma chère
partagé.
Isabelle. Je vous souhaite belle route.
Bonnes vacances à vous.
Belle route pour la suite, merci. On en a besoin de vacances d'ailleurs en ce moment. La météo avec Anissa Haddadi, que je vais quitter aussi avec beaucoup de regrets, ma
oui,
chère Anissa.
Moi aussi.
Alors, journée agréable demain, oui, avant le retour de la pluie.
Oui, alors c'est vrai que demain au petit matin, nous avons beaucoup de grisailles matinales, des brouillards qui sont fréquents sur le nord, l'est et tout l'ouest du pays. Donc soyez prudents si vous prenez la route tôt demain matin. Mais rassurez-vous, ces brouillards vont très vite se dissiper. Dans la journée, nous allons avoir un ciel qui va alterner sur quasiment toutes les régions entre nuages et éclaircies. Il n'y a que dans le sud-est, en Provence, sur la Côte d'Azur et en Corse, que vraiment le soleil va briller et dominer dans le ciel. Alors qu'est-ce qui va se passer demain en fin de journée? Eh bien dans la soirée, les pluies arrivent d'abord par la Bretagne et par la façade atlantique. C'est à partir de samedi vraiment que le temps va changer. Donc c'est une parenthèse enchantée. Profitez-en. Demain, les températures en plus, elles grimpent. Nous aurons 9 à 22 degrés le matin du nord au sud. C'est stationnaire. C'est dans l'après-midi que les températures seront en hausse. 22 à 26 en général sur la moitié nord. Jusqu'à 31 degrés dans le sud et même jusqu'à 34 voire 35 degrés demain après-midi en Provence et dans le sud-ouest.
Bah dis donc, 35 degrés, ça
il va faire
beaucoup.
Très lourd. Oui.
Bien, merci Anissa.
Merci à vous,
belle
Julien.
Belle route à vous également. C'est un plaisir de partager cette année de bonne humeur.
Un plaisir partagé.
Mon soleil tous les
c'était
soirs.
C'était vraiment un très bon moment.
Merci Anissa. Vous restez avec nous 19h13 dans quelques secondes. Le Club des idées. On va parler, tiens, du nouveau rôle des pères. D'abord la carte blanche de l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Éric Emmanuel Schmitt.
Bonsoir Julien.
Alors vous vouliez consacrer votre dernière chronique et aussi la dernière de cette saison à un coup de cœur étrange, un coup de cœur pour les enseignements du virus.
Ah, soyons clairs, hein, il ne s'agit pas d'un coup de cœur pour le coronavirus, lequel a tué 3,5 millions d'humains dans le monde et en a rendu malade 164 millions à ce jour. Non, quand je pense à ce virus, j'éprouve d'abord du chagrin, de la colère et de la crainte. Mais je voudrais tenter de presser le jus du malheur, d'en extraire du positif et souligner ce que nous a appris le virus sur nous et sur le monde.
Que vous a appris le virus justement sur le monde ?
La taille du monde a changé. La Terre a rétréci. Un virus apparu sur un marché de Wuhan en Chine a conquis toute la planète. Aucune région, aucune île n'y échappe. La Terre, qui semblait tellement immense aux hommes durant des millénaires, est devenue minuscule. Et plus aucune frontière ne constitue un mur. Et là, ce n'est pas le seul enseignement du virus. Si l'espace s'est rapetissé, le temps, lui aussi, s'est contracté.
Vous voulez dire que le temps a changé ?
Auparavant, Le temps de propagation d'une maladie était long. Une épidémie s'éteignait sans avoir jamais fait le tour de la Terre. Ici, le virus a voyagé à une rapidité jamais atteinte dans l'histoire. Pas à la vitesse des marcheurs ou des caravaniers, ni même à la vitesse des voitures, non à la vitesse des avions. En quelques semaines, il a touché tout carré de terre habitée. Mais il y a encore plus fort. Il n'y a pas que la taille et le temps du monde qui ont changé, mais la matière même du monde.
Ah, Éric-Emmanuel Schmitt, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça plus concrètement ?
Nous avions depuis 2 ou 3 siècles tendance à considérer la matière comme de la matière, justement, c'est-à-dire une chose morte, indifférente, apathique, amorphe. Du coup, nous nous sommes autorisés à la transformer, à la détruire, à la redresser, à la recomposer. Or, le virus nous apprend que la matière est vivante. La matière, c'est lui aussi. La matière dont nous sommes faits et dont sont faits en grande partie la nature, les végétaux, les animaux, c'est une matière en vie, des bactéries, des cellules, des virus. Nous-mêmes, nous sommes faits de cela. Alors, contrairement à ce que pensent Donald Trump ou les complotistes, le virus ne vient pas de l'extérieur. Il ne constitue pas un ennemi inventé, venu de nulle part, d'un laboratoire ou d'un cerveau maléfique. Non, il vient du vivant. Mieux, il est le vivant. Le virus est chez lui dans le vivant. Il vit chez lui. Notre regard supérieur sur la matière inerte est caduque. La matière est du vivant avec lequel il faut composer. Alors, selon moi, Julien, nous devons, nous, humains, passer de la conquête à la diplomatie.
Bien, conquérir la matière, je comprends bien comment nous l'avons fait, mais que serait passé à la diplomatie ?
Ce serait respecter le vivant en ne s'en croyant pas au-dessus. Ce serait prendre conscience des dommages que nous infligeons à la vie et à la nature pour modérer notre intervention. Ce serait arriver à concevoir la nature comme un tout qui nous est supérieur, dont nous ne sommes qu'une partie. Ce serait apprendre le respect de la nature, de la planète, du vivant sous toutes ses formes.
En fait, vous considérez, si je vous suis bien, ce virus comme un professeur qui vous donne une leçon de philosophie en somme.
Exactement, Julien. Une leçon de philosophie, de physique et de métaphysique, voire même une leçon de morale. Le virus nous signale en effet que nous avons été arrogants, amnésiques, trop conquérants, écrasants, impérialistes. Nous nous sommes cru le but de l'évolution. Il nous a rappelé que non. Il nous engage à plus d'humilité et à repenser notre rapport au monde. Personnellement, je considère ce virus comme un messager. Il précède d'autres catastrophes pour nous y préparer, voire pour les éviter, les catastrophes climatiques. Alors, si je désire naturellement que nous le vainquions, ce virus, je souhaite aussi que nous écoutions les terribles leçons qu'il nous inflige et que, une fois que nous aurons essuyé nos larmes, nous nettoyons nos esprits et nos comportements des idées et des conduites qui nous amèneraient immanquablement vers le pire. C'est bien d'apprendre, mais on apprend surtout bien du mal. Et le mal, en l'occurrence, ce n'est pas seulement l'autre, le virus, mais le mal, c'est aussi nous.
Bien, merci beaucoup Éric-Emmanuel Schmitt. Très belle fin, très belle dernière carte blanche et merci infiniment de nous avoir accompagnés cette année. On continuera évidemment à vous lire régulièrement en librairie.
Merci Julien et à très bientôt.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous 19h18 dans quelques secondes. Le débat du Club des Idées ce soir, on parlera du nouveau rôle des pères. Tout change, on vous explique tout, à tout de suite. Et ce soir, dans le débat des clubs des idées après les mamans poules, place au papa poule. C'est un changement de société qui s'opère depuis plusieurs années et c'est tant mieux. Le rôle des pères dans l'éducation et de l'équilibre des tâches au sein des couples évolue. Et on a décidé ce soir de s'y arrêter car c'est aujourd'hui, vous le savez, qu'entre en vigueur le nouveau congé paternité de 14 jours. On passe à 28 jours, ce qui permettra aussi de moins pénaliser les femmes dans leur carrière. On va tout vous expliquer. Alors, à quand une égalité parfaite ? Pourquoi les clichés ont-ils encore la vie dure ? Quel impact aussi pour les entreprises ? Et puis, faut-il mieux équilibrer les tâches aussi en matière de ménage et d'éducation des enfants. On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Benoît Serre.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président délégué de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines. On en parle également avec Christine Castelin-Meunier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue au CNRS, auteur de L'instinct paternel, auteur également des Hommes aussi viennent de Vénus, forts et sensibles, les nouveaux visages de la virilité. C'est aux éditions Larousse. Nadège Dazy est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association Parents et Féministes et consultant égalité. Tiens, je vais commencer par vous, Benoît Serre. Est-ce que vous avez pris, vous, un congé paternité quand vos enfants sont nés ?
Mais non, parce que je suis assez âgé, et donc à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Donc, mais je sais que pour le troisième, parce que j'en ai trois, vous allez tout savoir, j'avais pris des congés à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était pas les habitudes, en fait.
Ouais.
Et aujourd'hui, je me dis avec le recul que...
Vous avez le sentiment d'être passé à côté de quelque chose ou pas ?
Non, pas vraiment, mais... Ou alors je m'en suis pas rendu compte que j'étais passé à côté de quelque chose. C'est possible, ça. Mais c'est vrai que là, j'ai observé, parce qu'évidemment, j'ai pas mal de collaborateurs jeunes, etc. Et on sent bien que notamment le confinement leur a redonné le plaisir de dîner avec leurs enfants, de les faire déjeuner, parce qu'ils étaient en télétravail.
Oui.
Et donc, on voit bien que c'est un phénomène attendu, quand même. Mais moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, et je regrette. Excuse auprès de mon épouse.
Merci pour cet aveu de sincérité. On a promené notre micro cet après-midi dans les rues de Paris notamment pour voir comment les parents ou les futurs parents accueillaient cette mesure d'allongement du congé de paternité de 14 jours à 28 jours. C'est au micro de Brune Benedini.
Nous, on a pris ça comme une très très bonne nouvelle pour le coup. On est content qu'enfin ce soit reconnu, que déjà nous, on ait besoin aussi du conjoint et que le bébé surtout a besoin du papa pendant plus de 7 jours.
Moi, en tout cas, je n'avais pas eu l'occasion de le prendre, évidemment, lors de la naissance de mon fils, et j'aurais beaucoup apprécié de pouvoir effectivement m'arrêter sur une période un peu plus longue. Ça m'a permis de soulager également un peu ma compagne, et puis moi ça m'aurait permis de profiter un peu plus de mon fils, bien sûr.
Je crois que c'est parmi les processus qui pourraient contribuer à l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, et du coup oui, je suis pour.
Voilà, il y a une adhésion à peu près générale, et c'est tant mieux, Nadège Dazi. C'est un vrai progrès, c'est un vrai changement qui est en train de s'opérer.
Oui, alors le fait qu'en effet les mentalités changent à ce sujet-là, oui, c'est un vrai progrès.
Ouais. 14 à 28 jours, c'est quand même un congé paternité. On peut estimer que ça n'est pas suffisant, mais c'est quand même le double.
C'est quand même le double, et c'est vrai qu'on se réjouit du fait que la législation ait changé, et pour la première fois, qu'en effet, cette durée s'allonge. Après, évidemment, c'est vrai qu'on n'est pas complètement satisfaite sur le caractère obligatoire qui reste quand même très, très limité de 7 jours.
Oui.
Mais c'est vrai que les mentalités changent et on le voit. Et je pense que votre micro-trottoir aussi interrogeait des jeunes et que dans les jeunes, entre 18 et 24
mais
ans...
Mais ça tombe bien, c'est eux qui font des enfants.
Exactement. Mais la différence est très notable, en fait, oui. Entre le sentiment et la perception de ce nouveau congé chez les jeunes et chez les moins jeunes. On est à 69% d'adhésion chez les 18 et 24 ans, alors qu'on est beaucoup plus bas chez les populations un peu plus âgées.
Est-ce que vous estimez, Christine Castellamonte, que ça peut rééquilibrer d'une certaine manière, au sens large d'abord, et puis après on rentrera dans le détail, l'égalité homme-femme. Je rappelle que le congé maternité aujourd'hui pour les femmes, c'est 16 semaines. On est bien loin, mais on comprend pourquoi. Il y a des raisons physiques aussi à ce congé allongé. Et 26 semaines au troisième enfant. Ça peut réétablir une forme d'égalité entre hommes et femmes ?
Dit comme ça, pour l'instant, non. voilà, c'est un petit pas en avant... qu'il était nécessaire de faire depuis un certain nombre d'années. Et bien sûr que ça me réjouit.
D'ailleurs, parce que c'est important de préciser, la France est plutôt en avance. Alors, pas tout à fait par rapport aux pays scandinaves, mais j'ai découvert, par exemple, Allemagne, en Allemagne, il n'y a pas de congé.
Ah oui, en Allemagne, mais à l'échelle de l'Europe...
L'Allemagne est toujours un modèle en matière d'économie.
Oui, vous avez raison, mais par rapport à l'Espagne, etc., oh là là, non, pas du tout. Donc voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire du côté de la France, mais c'est un petit pas en avant. Et pour répondre à votre question concernant l'égalité, bien sûr que ça permet d'avancer et avec le fait qu'aujourd'hui, la paternité relationnelle impliquée est une norme pour l'ensemble des jeunes générations, oui. Ça a été dit. Et ça, c'est très important de respecter ça et cette idée que les jeunes générations aujourd'hui veulent combiner le moins mal possible le travail et la famille.
Alors,
et ça, c'est clair.
Il y a une question qu'on se pose et puis on parlera de l'implication pour les entreprises plus largement, Benoît Serre. Est-ce que c'est encore un peu, allez, on va dire les choses clairement, un peu mal vu de prendre son congé paternité en entreprise ? On se dit, bah tiens, celui-là, il n'a pas envie de bosser, quoi.
Non, ça dépend beaucoup des entreprises. Ça peut arriver, parce que c'est effectivement un phénomène générationnel, et si les dirigeants d'entreprise sont de la génération du dessus, ils peuvent s'en étonner, mais vous avez le même phénomène, un peu de raisonnement absurde, avec le télétravail, en fait. Donc c'est un peu un combat perdu d'avance face à certaines personnes. L'entreprise dont je DRH, là, maintenant, c'est L'Oréal, en France, c'est une boîte qui a créé depuis 2019 ce phénomène-là. Et donc on n'a jamais observé. D'abord, c'est un programme mondial qui s'appelle Share and Care. Donc, c'est vrai que dans certains pays, on a surpris quand on a donné 6 semaines de congé paternité. Dans d'autres, on a moins surpris parce qu'ils étaient déjà avancés. Donc, je pense que c'est une affaire écoutée entreprise. Et justement, le management général a un rôle là-dedans, qui est justement d'empêcher ce type d'interprétation, de faciliter les choses. La question de l'obligation dont vous parliez, c'est un autre débat, peut-être qu'on en parlera. Mais je crois que, vous savez, un peu en plaisantant, mais l'absence pour congé paternité, c'est quand même l'absence la plus prévisible du monde, quand même. Donc, on sait le faire. Quand l'absence n'est pas prévisible, ça serait surprenant qu'on n'y arrive pas.
Là encore, on ne va pas se mentir, il y a encore des entreprises, heureusement, il y en a de moins en moins, qui refusent ou qui hésitent avant d'embaucher des femmes parce qu'ils savent qu'elles vont tomber à un moment enceinte. Alors
c'est
que
exact.
Pour les hommes, c'est différent.
Malheureusement,
on ne se dit pas, lui, on ne va pas le nommer parce qu'il va prendre sa semaine de congé dans quelques temps.
Vous avez raison, et je pense... Mais alors, ce n'est pas une bonne pratique. D'abord, c'est interdit, quand même. Et la deuxième chose, c'est que... Après, il faut regarder les typologies d'activités. Encore une fois, je ne le justifie pas et je ne l'excuse pas. J'essaye juste de comprendre le phénomène, qui n'est pas forcément un phénomène d'anti-ceci ou d'anti-cela. Une petite entreprise, elle sait qu'elle est très courte en termes d'effectifs, elle peut avoir un sujet d'organisation. Je ne pense pas que l'intention soit mauvaise. C'est une sorte de pragmatisme mal placé.
Alors, on en parlera juste après la pause du caractère obligatoire. Tiens, aussi, c'est intéressant, ça. Et puis, on sera en ligne avec ces nouveaux... Pardon de le dire comme ça, parce que je me considère aussi comme ça, mais ces nouveaux papa-poules et qu'ils le revendiquent. 19h28, à tout de suite. Oui, la suite du Club des Idées à 19h30 et on continue d'évoquer cette révolution qui est en marche, le nouveau rôle des pères avec ce congé paternité qui aujourd'hui même passe de 14 jours à 28 jours. Alors avant de vous redonner la parole aux uns aux autres, je voudrais simplement qu'on mesure tout de même le chemin parcouru avec une petite pépite d'archives que j'aime passer régulièrement dans cette émission, l'extrait d'un discours à l'Assemblée nationale, novembre 70, d'un certain Jacques Chaban-Delmas.
Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine comme identique à une carrière masculine, ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité. Et qu'à cet égard, il importe que vous ayez des facilités de pouvoir développer votre action et faire épanouir ceux et celles à qui vous avez donné le jour.
Quel chemin parcouru tout de même. C'était pas il y a 80 ans, hein. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, quasiment, en 1970, le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, Christine Castelin-Meunier, c'est vrai quand même qu'on en a fait du chemin. On peut estimer qu'on ne va pas assez vite, mais on en a fait du chemin.
Tout à fait, tout à fait. Et moi, j'étais ravie en 2002 qu'on allonge le congé de paternité, parce que j'avais suggéré en 2000 que vraiment, on l'augmente. Mais j'aurais souhaité, à ce moment-là, là, c'était dans le cadre du gouvernement Jospin. J'aurais souhaité, avec Ségolène Royal, j'aurais souhaité que vraiment, on l'allonge comme dans les pays scandinaves déjà. D'accord ?
Oui.
Donc, c'est pour ça que je parle un peu du retard et du petit pas. Et
On va peut-être d'ailleurs en dire un mot pour nos auditeurs. Le modèle norvégien, c'est la possibilité de prendre 5 mois de congé maternité pour la mère après la naissance, suivi de 5 mois ensuite pour le père, donc ça fait 10 mois au total. Évidemment, ça a un impact sur les mentalités, puisque là-bas, c'est la norme, sur le rapport à la paternité, sur la carrière aussi des femmes qui ne sont pas parfois freinées dans leur carrière, et sur l'égalité salariale.
Bien sûr. Et alors, c'est très important aujourd'hui de réaliser que, au sein des entreprises, on peut dire que le travailleur est aussi un père. Voilà. Là où, jusqu'à présent, ben voilà, le travailleur n'était pas un père.
Oui.
Donc on occultait toute cette face familiale du masculin. Quoi.
Alors on est avec Yannick Vicente, qui est en ligne avec nous, qui est auteur de Je suis papa, 28 jours pour trouver ses marques, père de deux petites filles, je crois. Bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Merci
d'un petit garçon et d'une petite fille.
D'un petit garçon et d'une petite fille. Voilà. Si c'est dans ce sens-là, on dit le choix du roi. Là aussi, c'est un peu sexiste de dire le choix du roi, d'ailleurs, cela dit en passant. Yannick, vous revendiquez le droit de prendre du temps. Est-ce que c'est parce que vous revendiquez un rapport à cette éducation, à cette paternité, ou est-ce que c'est aussi pour décharger la maman et parce que vous avez la conviction que ça peut soutenir l'égalité homme-femme, comme on le dit depuis tout à l'heure?
Bah, en effet, d'abord parce que ça permet aux papas de prendre une vraie place auprès de leur bébé pendant les tout premiers jours, ce qui est, ça permet de créer un véritable lien d'attachement qui est vraiment fondamental au bien-être de l'enfant. Et ensuite, ça permet aussi d'assurer un rôle de soutien essentiel auprès de leur compagne pendant ces premières semaines.
Oui.
Ça permet de rééquilibrer les tâches domestiques et parentales au sein du couple.
Oui. Le congé parental idéal pour vous, dans un monde idéal, ce serait quoi ?
Bah, pour moi, ce serait déjà au moins autant que pour les mamans. Donc, 16 semaines. Au moins 16 semaines.
Ah oui. Ouais.
Ce serait un idéal pour pouvoir permettre au papa de s'impliquer autant. Parce qu'il y a encore 70% des papas qui ne prennent pas leur congé paternité. Quoi.
Oui. Et le caractère obligatoire, vous y seriez favorable, vous ?
Oui. Je pense que les 7 jours, c'est vraiment un minimum. Et je pense qu'il faut vraiment impliquer les papas dans cette démarche-là. Quoi. Parce qu'en fait, aucun parent n'est plus doué que l'autre pour élever un enfant.
Bien, merci Yannick Vicente. Merci infiniment pour ce témoignage et cette contribution au débat. Nadège Dazi, membre de l'association Toujours Parents et Féministes, qu'est-ce qui se passe dans les pays scandinaves que nous n'avons pas ? Pourquoi cette mentalité-là et cette espèce d'égalité ? Parce que je regardais les chiffres, on parlait du modèle norvégien. Si vous allez du côté de la Suède, le congé parental peut durer jusqu'à 480 jours. Un an et demi. En Finlande, 54 jours de congés payés sont offerts au père, en plus de ce qui est offert aux parents qui se partagent 26 semaines de congés parentaux et qui sont payés entre 70 et 90% du salaire. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Scandinaves ?
Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments, parce que c'est vrai qu'on prend souvent les pays nordiques qui ont déjà aussi des modèles économiques différents. Mais il y a aussi une culture qui est très très différente, là, une culture de l'égalité qui est prégnante dès l'éducation en fait, leurs écoles aussi ont des modèles très différents et c'est vrai qu'on valorise vraiment l'égalité homme-femme et qu'on a des politiques publiques mais qui vont en conséquence en fait, qui vont jusque à avoir un congé qui est plus ou moins égalitaire pour les hommes et les femmes, qui est long et qui permet du coup en effet une égalité salariale meilleure, qui permet vraiment aussi au père de prendre sa place. Il n'est pas en fait là juste en soutien, parce qu'on entend souvent en fait que les papas sont là pour soutenir. Non, les papas sont là parce que évidemment c'est un droit que ce congé paternité, mais c'est aussi un devoir. Il y a un rôle aussi de cogestion. Et donc dans ces pays nordiques, c'est vrai qu'il y a vraiment une culture très très différente, mais qui s'inculque dès le plus jeune âge. Et je voulais juste revenir parce qu'on passe souvent des pays nordiques et souvent aussi ce qu'on dit, mais la France est très différente. Mais on le disait tout à l'heure, l'Espagne depuis janvier 2021 est passée à 16 semaines pour les hommes et les femmes, alors que l'Espagne est un pays qui finalement financièrement est peut-être plus comparable à la France, avec une population aussi plus similaire. Donc pour moi, il y a vraiment aussi un enjeu de réelle volonté politique.
Alors, l'enjeu pour les entreprises aussi, on va y revenir avec Benoît Serre, évidemment. D'abord, on va écouter ce que dit François Asselin. François Asselin, c'est le président de la CPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, sur cette histoire de congé paternité à 28 jours. C'était il y a un an.
Nous ne sommes absolument pas opposés au fait de pouvoir élargir les congés parentaux. Mais attention, dans la petite entreprise, eh bien, il y a des problèmes d'organisation tout à fait concrets qui seront sans solution.
Alors, c'est vrai qu'on peut le comprendre, ça, Benoît Serre, vous êtes président délégué de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines dans les petites entreprises. Donner 24 jours, et pourquoi pas demain plusieurs semaines, un papa pour qu'il s'occupe de sa petite fille ou son petit garçon, ça déséquilibre l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut régler et trouver une solution ?
C'est vrai, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une forme de pragmatisme à avoir. Il s'agit évidemment, la grande majorité des gens sont pour ce type de mesure, mais il y a une réalité, notamment dans les petites entreprises, surtout dans les périodes un peu tendues. Alors, j'ai entendu certains dire que ce n'était pas le moment, je pense que c'est une erreur d'analyse, mais il faut tenir compte de cela. Donc, je crois que le débat sur l'obligation, il est intéressant, en fait.
Oui.
Parce que je pense que c'est bien qu'une entreprise ne puisse pas le refuser. Par contre, je suis toujours un petit peu partagé sur les injonctions étatiques sur un certain nombre de choses. Il faut laisser les individus choisir. Alors, je sais que laisser les individus choisir s'ils le prendront totalement ou partiellement, Ça peut conduire certains à ne pas le prendre, ça c'est vrai. Donc ça freine un peu la transformation culturelle, je suis d'accord. Mais en même temps, ça signifie aussi qu'il faut laisser les gens un peu libres de s'organiser. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile à trouver en termes d'équilibre dans les entreprises. Et ce n'est pas le seul sujet auquel on est confronté. Où s'arrête l'injonction de l'entreprise sur la vie privée de ses collaborateurs ? Ça, c'est une question difficile. Mais je comprends ce que dit François Asselin. Je pense en revanche que ça évoluera dans le temps, en fait, mais et que ça se prépare.
Ça veut dire qu'il faut imaginer quand même des aides spécifiques pour les petites entreprises. On a une boulangerie, on a 3 salariés, on a son premier commis qui part pendant plusieurs semaines en congé maternité.
Je pense qu'il faut tenir compte de cela. Alors ça peut être effectivement des aides de recours à des CDD longue durée qui permettent parce qu'il y a une réalité de toute façon. On peut dire c'est bien, évidemment que c'est bien, mais il y a quand même une réalité dans les petites boîtes. Donc, il faut trouver un moyen pour pas que ça empêchent les gens de prendre des congés paternité ou que les dirigeants d'entreprise poussent leurs collaborateurs à ne pas les prendre pour des raisons opérationnelles, et en même temps apporter des solutions aux PME, parce que les grandes entreprises arrivent à s'en sortir assez largement, en fait, bien, d'organisation.
Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, quand on regarde les chiffres, encore des égalités salariales colossales entre les hommes et les femmes.
Oui.
À tout âge, c'est autour de 7% pour les salariés sans enfants. Et alors, quand on regarde les salariés avec enfants, c'est 23% en moyenne de différence salariale entre les pères et les mères, sur les chiffres de l'INSEE. C'est colossal.
Ça, c'est colossal et évidemment totalement anormal, avec la nécessité pour les entreprises et pour l'État, de mon point de vue, d'être beaucoup plus exigeant sur la fin de cette inégalité qui est insupportable.
On marque une nouvelle pause, on se retrouve dans quelques secondes avec nos invités. 19h39, à tout de suite. 19h41, la suite du Club des idées. On continue à parler du rôle des pères aujourd'hui dans la société qui évolue avec l'entrée en vigueur, on le répète aujourd'hui, de ce nouveau congé de paternité de 14 jours à 28 jours. Alors, je voudrais vous faire partager une expérience qui a été menée, qui est plus qu'une expérience parce que ça a été maintenu dans les faits, chez l'assureur Aviva, qui a décidé de mettre en place un congé paternité de 10 semaines contre, vous l'avez compris, 28 jours aujourd'hui. On écoute Sylvie Chartier-Guedet, qui est la directrice inclusion et bien-être de la compagnie.
Ça a décomplexé le sujet, ça a décomplexé les parents. On n'est pas sur du présentéisme, on est sur de la performance et de la compétence. C'est essentiel pour moi, parce que derrière, ça renvoie sur la confiance, sur l'autonomie et sur la performance.
Voilà, on retombe, Christine Castellin-Meunier, vous êtes sociologue au CNRS, sur le même constat pour les grandes entreprises. C'est facile quand il y a une volonté politique à l'interne, mais pour les petites entreprises, évidemment, c'est plus compliqué.
C'est sûr. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que au fur et à mesure que ça va bouger, et moi je suis très positive dans ce sens-là, eh bien on peut dire aussi que du coup l'économie va un petit peu s'adapter finalement. Mmh. Et ça m'avait beaucoup frappé. J'avais participé à un truc avec des entrepreneurs, et puis le truc de région, tout ça. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il y avait des jeunes DRH qui disaient. Entre deux candidats potentiels, performants, je choisirai, s'il y en a un qui me dit « je veux prendre à 80% du temps pour m'occuper de mes enfants », et ben je choisirai celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il sera plus heureux, il fera bénéficier l'entreprise de son bonheur, et il sera... Au point dans sa vie, quoi.
Oui.
Et donc, ça, c'est très important. Et c'est très important de voir à quel point, aussi, au sein des petites entreprises, ça crée une dynamique qui est intéressante.
Alors, il y a le rééquilibrage, évidemment, des salaires, de l'égalité homme-femme. Et puis, il y a ce que représente aussi la paternité pour les enfants. On est avec Isabelle Filioza, psychothérapeute, vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours. Bonsoir, madame.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous et toutes.
Alors, 1000 premiers jours, pourquoi 1000 premiers jours ? Eh bien parce que vous estimez que dans la vie d'un nouveau-né, les 1000 premiers jours sont primordiaux dans la relation que ce nouveau-né va avoir avec son père et sa mère.
Tout à fait, ces 1000 premiers jours, ce sont les moments où on pose les fondations, on construit les bases. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsqu'on sourit à un bébé et qu'il nous sourit, eh bien à ce moment-là, on construit littéralement l'architecture de son cerveau. Il y a plus de 1 milliard de connexions qui se font à la seconde dans le cerveau de ce tout petit. Donc oui, c'est un moment de câblage intense, je dirais, mais on n'est pas que un cerveau. C'est vraiment un moment où on va s'ajuster l'un à l'autre et on va découvrir. Et ce qu'on note maintenant, c'est que lorsque le papa reste davantage à la maison, il apprend mieux à décoder les émotions, les besoins de son enfant. Il devient plus sensible à ce que vit son enfant. Mmh. Et du coup, il se sent aussi plus avec des compétences parentales.
Ça, c'est un élément aussi, Benoît Serre, qui est important dans les entreprises. Le bonheur à la maison, c'est le bonheur au travail et c'est plus de productivité.
Alors, exactement. Et pour faire un lien un petit peu avec la crise qu'on a vécue, on s'est enfin rendu compte, parce que cette crise a servi de stress test général sur ces sujets-là, qu'effectivement, la dimension de la sérénité qu'ils ont, que les collaborateurs ont dans leur vie privée, de parents ou d'autres choses, évidemment a un impact sur la manière, sur la relation de travail qu'ils peuvent avoir et sur la manière de travailler. Maintenant, le sujet, c'est toujours pareil, c'est trouver le bon équilibre entre les souhaits individuels et les contraintes collectives. Mais sur le fond, je pense que c'est un sujet qui va avancer. Et je souscris à ce que vous disiez, madame, il faut aussi laisser le temps aux choses de s'installer. Je ne crois pas aux obligations parce qu'elles ne créent pas de la culture, en fait, elles créent de la contrainte. Mmh. Moi, les choses vont s'installer et je suis très confiant pour l'avenir. Petit à petit, je ne sais pas si l'économie va s'adapter, mais la société va s'adapter, la société est plus forte que l'économie.
Bien. Nadège Dazi, le profil aujourd'hui du père, même j'allais dire plus globalement, de l'homme moderne, pardon, j'aime pas trop ce terme-là, mais de l'homme de la jeune génération, et je me mets dedans, qui conçoit la relation avec l'autre, avec son partenaire, à totale égalité. Est-ce que c'est le cas de toute cette jeune génération aujourd'hui, où il y a encore des dissensions ?
Mais de manière générale, moi, j'aime pas trop catégoriser une population, donc je ne peux pas dire en effet que tout le monde est identique et que tout le monde a les mêmes aspirations.
Est-ce qu'il y a des conservatismes encore chez les jeunes, un peu sexistes, un peu machistes ? Voilà, je le pose plus clairement.
Mais évidemment, évidemment. Et il y a des études qui montrent que même dans des couples très féministes, à l'arrivée de l'enfant, en fait, on a beau avoir des principes. Après, dans la mise en application des principes, les inégalités sont là. Et d'ailleurs, pendant ce confinement, on l'a vu, beaucoup de mères en fait, ont eu un peu des grandes déconvenues en se disant oui. Les maris étaient à la maison, les hommes étaient à la maison, donc on va s'occuper plus de l'enfant. En fait, pas forcément. La charge mentale est revenue encore plus sur les femmes. Les femmes sont sorties de cette pandémie avec un burn-out énorme.
La charge mentale, c'est tous les petits trucs dont il faut s'organiser pour la vie du quotidien.
Exactement. C'est tous les petits trucs qui font que ça devient très, très lourd à porter. Et on le voit, on a beau être engagé. Et je pense aussi qu'un changement de mentalité ne se fait pas du jour au lendemain. Je veux bien être aussi positive, mais c'est vrai que moi, j'interviens aussi dans les écoles. Et quand je vois parfois des réponses d'enfants, je suis assez anxieuse. Parce que non, c'est pas forcément gagné.
Isabelle Filioza, comment on fait pour casser les préjugés, à votre avis, sur ce rapport aussi à la paternité et pour tendre vers une égalité homme-femme idéale?
Eh bien, on fait ce qu'on est en train de faire en ce moment, je pense. C'est-à-dire qu'on permet. En fait, il faut expérimenter. Parce que, comme le disait très très bien Benoît Serre au tout début, il ne s'est pas rendu compte qu'il était passé à côté de quelque chose. Et en fait, les parents ne vont pouvoir mesurer qu'ils passent à côté de quelque chose que lorsqu'ils pourront l'expérimenter. Donc voilà, on change d'abord. C'est ce qu'ont fait aussi les pays nordiques. Au début, ils n'étaient pas. Ils ont aussi fait tout un processus d'évolution. Et pour changer, on expérimente, on sent, et du coup, on commence à sentir l'envie. Et du coup, ça peut changer.
C'est un peu votre thérapie aussi ce soir.
Oui, mais je voulais rassurer tout le monde, mes enfants vont très bien.
Dans l'entreprise, comment on fait pour casser les clichés ?
Alors, je crois que l'entreprise, en revanche, au-delà de l'obligation dont on a parlé, elle a une responsabilité de participer à ce mouvement sociétal. Elle a de le promouvoir, de le reconnaître, de le faciliter, d'expliquer pourquoi c'est important, de former les managers, de pas redouter ou de pas penser qu'un tel travaille pas parce qu'il prend un congé paternité. Elle a un rôle d'acculturation, l'entreprise. Et je pense que ce rôle d'acculturation, il est bien plus important que le rôle d'obligation. Mmh. Et quand une entreprise, alors celle dans laquelle je suis, mais d'autres également, prennent ce type de décision, elles envoient un message. Elles envoient un message. Et que petit à petit, ce message, il va percoler dans les organisations. Et en plus, il faut s'appuyer sur deux choses, vous l'avez évoqué. Un, la jeune génération, pour elle, il n'y a pas de doute. Et deux, essentiellement, majoritairement, on va dire. Et puis, et sur le fait qu'on a enfin découvert, redécouvert, à mon grand regret comme DRH, évidemment, l'importance de l'humain pendant cette crise. Donc je pense que la somme des deux, c'est un terrain super favorable pour que ça se développe.
Alors, vous parliez de charge mentale. C'est un mot qu'on entend beaucoup depuis quelques années, parce qu'on a mis un mot, en fait, sur ce que beaucoup de femmes et d'hommes également ressentaient. Alors, la charge mentale, chaque jour, vous savez combien ça représente ? 183 minutes précisément de travail domestique. C'est la préparation des repas, les tâches ménagères, et puis tout l'à côté. 95 minutes pour les enfants, soit un total de 4h38 par jour uniquement pour les femmes. C'est colossal quand même.
Bah, c'est énorme.
Non, mais c'est quelque chose qu'on ne mesure pas.
Oui, oui, tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand il y a eu la BD d'Emma sur la charge mentale, les jeunes hommes...
Pardon, je n'ai pas précisé, mais pour les hommes, c'est 2h26. Hein. Voilà, c'est du simple au double.
Oui, mais par rapport au passé, ça a considérablement augmenté. Hein. Et ils n'ont pas eu de transmission, d'identification aux pères relationnels impliqués comme ils sont aujourd'hui. Et en fait, quand il y a eu la BD d'Emma sur la charge mentale, c'était... C'était intéressant de voir que les jeunes couples discutaient entre eux. Et c'est vrai qu'il y avait des jeunes hommes qui tombaient un peu des nues avec cette idée, quoi, je t'aide, ça suffit, je suis là, je participe. Et en fait, non, l'idée, c'était de partager les responsabilités parentales et non pas ce poids qui pèse sur les épaules. Et moi, je sens aujourd'hui qu'on va vers ce que j'appelle une humanisation du masculin. Et c'est pour ça que j'ai fait 3 bouquins sur le masculin. Pourquoi ? Parce que du côté des garçons, je trouve que c'est très important, oui, de réfléchir à l'éducation des garçons, donc chez Nathan, et si on réinventait l'éducation des garçons. Et puis un autre sur les hommes aussi viennent de Vénus. Pourquoi ?
Ah, mais parce que... vous faites votre pub.
Non, c'est pour dire que c'est vraiment aujourd'hui qu'on est en train de sortir de quelque chose, de ce patriarcat. Merci. Et qu'on va vers ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les transformations du masculin.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat nécessaire sur le congé paternité et le nouveau rôle des pères et l'égalité homme-femme. Merci.
Europe 1, Julien Buchy.
Restez avec nous dans quelques secondes, la suite du Club des Idées avec les archives. On parlera, tiens, toujours en parlant de charge mentale, des 100 ans du Parti communiste chinois. Non, rien à voir. À tout de suite. La suite du Club des Idées à 19h53. 3 minutes pour comprendre, c'est le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can. Europe
1. Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir avec vous, on remonte à 89. Le 15 avril, à l'occasion des 100 ans du Parti communiste chinois, nous revenons ce soir donc sur les manifestations de la place Tiananmen.
Et pour beaucoup d'entre nous, cet événement, c'est une image. Un étudiant bien esselé qui parvient à faire stopper une colonne de chars, un résistant pacifique pour l'histoire. Mais à en croire les premiers témoignages diffusés le 4 juin sur Europe 1, Tiananmen, c'est ça.
Ils utilisent surtout la mitrailleuse. Ils commencent par tirer les gens en devant. Une fois les gens tombent, ils font passer les tanks dessus. Une fois les tanks passés, donc les gens ils sont complètement écrasés par les tanks. Après, ils mettent du feu sur les cadavres. Donc maintenant, sur l'avenue qui longe Tiananmen et sur la place Tiananmen, ça devient vraiment la mer de sang et la mer de feu. Ils assassinent aussi les vieillards, les enfants, même avec des enfants de 3 ans.
Le nom du manifestant qui se tient face au char est inconnu. Le nombre de victimes reste un mystère. Quelques centaines, peut-être 10 000 morts. Étudiants, intellectuels dénoncent à l'époque la corruption. Réclament plus de démocratie et de liberté d'expression. Un mois et demi de manifestation, de grève de la faim. Un mois et demi au cours duquel Claude Bellet raconte à nos auditeurs la façon dont le régime chinois resserre les taux sur les contestataires et les journalistes.
Le président chinois vient d'annoncer l'instauration de la loi martiale. Il vient de prendre la parole il y a quelques instants. Le gouvernement chinois emploie donc les grands moyens. Il est vraisemblable donc que les étudiants vont être évacués par la force. Il est vraisemblable aussi qu'un couvre-feu va être instauré et qu'il sera peut-être difficile de continuer à travailler de Pékin comme nous le faisons depuis une semaine maintenant. Mais en tout cas, nous essaierons de vous rendre compte du mieux possible des événements effectivement extrêmement dramatiques qui se préparent ici à Pékin.
Oui, ces manifestations de Tiananmen sont un moment critique de l'histoire moderne chinoise. C'est aussi un prétexte pour faire un grand ménage.
Oui, le régime identifie ce qu'il considère être des moutons noirs. Les arrestations et les assignations à résidence se multiplient. Ça concerne jusqu'au plus haut cadre du parti. Zhao Zhenyang, secrétaire général du PCC, est même mis aux arrêts car il laisse entendre qu'un accord sera trouvé entre opposants et gouvernement. Claude Bellet ne le sait pas encore, mais Zhao Zhenyang sera assigné à résidence jusqu'à sa mort.
L'événement politique important d'aujourd'hui, c'est la disparition, en tout cas la non-apparition de la tribune du secrétaire général du Parti communiste, M. Zhao Ziyang. M. Zhao Ziyang, qui est un réformateur, qui passait pour être le dauphin de M. Deng Xiaoping, eh bien M. Zhao Ziyang a disparu de la scène politique. Il est vraisemblable que sa carrière s'achève aujourd'hui.
Un mois et demi de manifestations donc et de répression, Jean-Sébastien, mais tout cela s'est déroulé pour rien.
Ah, ça met même un coup d'arrêt à des réformes engagées à l'époque par Deng Xiaoping. Il affichait une volonté de moderniser le pays. Il parlait même d'une volonté d'ouverture au reste du monde. Tiananmen est devenu le prétexte à un sérieux tour de vis. Ce qui frappe, c'est que les manifestants ne le percevaient pas du tout à l'époque.
Si le combat va continuer, parce que la démocratie, c'est un travail du peuple. On doit beaucoup travailler pour réveiller les idées du peuple.
Comment ça va se passer?
On fait des affiches, on fait des discours, dans tout le pays. Je crois il aura une victoire bientôt.
C'est quand bientôt?
Un an après.
Un an ou deux, décalage impressionnant car 32 ans après, la Chine a pris un sérieux virage économique alors que sur le plan de la démocratie, c'est bel et bien la ligne droite qui est suivie par le parti.
Merci Jean-Sébastien Saldini, merci pour ce récit.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, avant de passer la main, quelques mots pour cette dernière. Quelques mots de remerciement à ma formidable équipe qui m'a accompagné avec talent et bienveillance et a supporté mes humeurs aussi. Christophe Carré, le chef d'orchestre, Isabelle Millet, Marie-Baptiste Duhard, Victor Chabert, la bonne humeur d'Anissa Haddadi, le maestro de la réalisation Vincent Thévenet, Anne-Claire Bazin évidemment. Un salut également à Mikaela Constance Benquet pour sa confiance. C'est avec un peu d'émotion que je remercie aussi cette incroyable rédaction qui m'a accueilli pendant cette année intense. Bravo pour son engagement, toujours impeccable, malgré la tempête. Vous avez évidemment mon soutien. Europe 1 est une maison formidable qui a vu passer les plus grands. C'est un honneur d'en avoir été l'une des voix pendant cette année. Vive la radio, vive le journalisme d'information, vive Europe 1 et merci à vous pour votre fidélité. Lionel Rousseau, c'est à vous.
Merci beaucoup Julien, et eh bien bonne route et bravo pour vos pronos tout au long de cette année. Vous avez été très bon, Ligue des Champions,
j'ai
championnat
été absolument minable, vous voulez
vous
dire.
Vous étiez excellent, meilleur que moi en tout cas, félicitations et merci de nous donner la main pour l'émission dans quelques instants. Effectivement, Europe 1 Football Club avec nos experts, nos invités, on va parler notamment de la demi-finale, demain le choc entre la Belgique et l'Italie. À bientôt Julien.
À bientôt cher ami. Julien Pierce pour l'info dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. À ciao, bonsoir, comme disait l'autre.